voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Jouffroy.
Canal Academy vous propose de découvrir, au cours de deux émissions consacrées à la bataille de Valmy, trois regards d'académiciens des 19e et 20e siècles, Arthur Chuquet, Victor Duruy et Jules Michelet. Voici une première émission qui vous invite à écouter les textes des académiciens Jules Michelet et Arthur Chuquet. Michelet contextualise la bataille, Chuquet la décrira. La bataille de Valmy, remportée par les armées révolutionnaires sur les Prussiens le 20 septembre 1792, marque à la fois la victoire de l'armée du peuple, l'arrêt de l'invasion étrangère et le début de la République. Le 20 avril 1792, Louis XVI et l'Assemblée, entraînés par les Girondins, déclarent la guerre aux rois de Bohême et de Hongrie, c'est-à-dire l'Autriche, rapidement soutenue par la Prusse. L'armée française, affaiblie par le départ de nombreux officiers hostiles à la Révolution, subit des défaites. L'Assemblée proclame la patrie en danger et fait appel à des volontaires qui s'engagent par milliers. Des fédérés affluent de province, notamment de Marseille, et ces derniers défilent à Paris au son d'un chant martial composé par Rouget de Lisle et qui deviendra la Marseillaise. Dans ce contexte de fièvre patriotique, le duc de Brunswick, commandant l'armée prussienne, commet la maladresse de menacer Paris de destruction si la moindre violence est faite au roi. Le peuple réplique au manifeste de Brunswick par la prise des Tuileries le 10 août 1792. Sous la pression de la foule, l'Assemblée suspend le roi, le remplace par un conseil exécutif provisoire et accepte de convoquer une convention élue au suffrage universel pour doter la France d'un nouveau régime. La tentative de monarchie constitutionnelle a donc échoué. Fin août, les armées autrichiennes et prussiennes pénètrent en France. Le 2 septembre, Verdun capitule. La route de Paris est ouverte. Des artisans et des boutiquiers se ruent vers les prisons parisiennes, improvisent des tribunaux populaires et procèdent à des exécutions sommaires. Ces massacres de septembre font plus de 1000 victimes. Les Girondins condamnent vigoureusement ces excès. En Champagne, les collines de l'Argonne, où le général Dumouriez concentre ses troupes, sont le seul obstacle à l'invasion. Jules Michelet, né à Paris en 1798, élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1838, mort ailleurs en 1874, est l'historien de la France. Fils d'un imprimeur ruiné par les lois napoléoniennes sur l'imprimerie, il parvient quand même à suivre les cours du lycée Charlemagne. Élève brillant, il est bachelier S-lettres à 19 ans, licencié à 20, docteur S-lettres à 21, avec une thèse sur les vies des hommes illustres de Plutarque, et agrégé à 23 ans. La révolution de 1830 fait naître chez lui l'enthousiasme pour les idées libérales et la conviction que toute l'histoire de France est une longue lutte du peuple contre le despotisme. Chef de la section historique aux Archives nationales de 1831 à 1852 et travailleur infatigable, Michelet est maître de son récit, des causalités et des sources d'archives. Il est aussi le maître des mythes républicains. Son humanisme, sa personnalité sont inséparables de son œuvre d'enseignant et d'écrivain. L'objectivité en souffre, mais une poésie en jaillit, ainsi qu'une philosophie de l'histoire. Il croit au progrès de l'humanité et il s'efforce de montrer que le peuple détermine le cours des événements. De 1846 à 1853, Michelet consacre 8 années de sa vie à écrire 5 années de l'histoire de France, les années de 1789 à 1794. Son œuvre maîtresse, l'histoire de la Révolution française, est une fresque monumentale et un des sommets de l'historiographie du XIXe siècle. Dans le tome 4, paru le 10 février 1850, son récit va de la dernière journée révolutionnaire à ses yeux, le 10 août 1792, à la décadence définitive des Girondins après la victoire de Jemmapes en novembre 1792. Le chapitre 8 du livre 7 raconte la victoire de Valmy. Écoutons le style de Michelet et la puissance évocatrice de sa plume.
Chaque jour, 1800 volontaires partaient de Paris, et cela jusqu'à 20 000. Il y en aurait eu bien d'autres si on ne les eût retenus. L'Assemblée fut obligée d'attacher à leurs ateliers les typographes qui imprimaient ces séances. Il lui fallut décréter que telle classe d'ouvriers, les serruriers par exemple, utiles pour faire des armes, ne devaient pas partir eux-mêmes. Il ne serait plus resté personne pour en forger. Les églises présentaient un spectacle extraordinaire, tel que, depuis plusieurs siècles, elles n'en offraient plus. Elles avaient repris le caractère municipal et politique qu'elles eurent au Moyen Âge. Les assemblées des sections qui s'y tenaient rappelaient celles des anciennes communes de France ou des municipes italiens qui s'assemblaient dans les églises. La cloche, ce grand instrument populaire dont le clergé s'est donné le monopole, était redevenue ce qu'elle fut alors, la grande voix de la cité, l'appel au peuple. Les églises du Moyen Âge avaient parfois reçu les foires, les réunions commerciales. En 92, elles offrirent un spectacle analogue, mais moins mercantile, plus touchant, les réunions d'industrie patriotique, qui travaillaient pour le salut commun. On y avait rassemblé des milliers de femmes pour préparer les tentes, les habits, les équipements militaires. Elles travaillaient et elles étaient heureuses, sentant que, dans ce travail, elles couvraient, habillaient leur père ou leur fils. À l'entrée de cette rude campagne d'hiver qui se préparait pour tant d'hommes, jusque-là fixés au foyer, elles réchauffaient d'avance ce pauvre abri du soldat, de leur souffle et de leur cœur. Près de ces ateliers de femmes, les églises même offraient des scènes mystérieuses et terribles. De nombreuses exhumations. Il avait été décidé qu'on emploierait, pour l'armée, le cuivre et le plomb des cercueils. Pourquoi non ? Et comment a-t-on si cruellement injurié les hommes de 92 pour ce remuement des tombeaux ? Quoi donc, la France des vivants, si près de périr, n'avait pas droit de demander secours à la France des morts et d'en obtenir des armes ? S'il faut, pour juger un tel acte, savoir la pensée des morts même, l'historien répondra sans hésiter, au nom de nos pères, dont on ouvrit les tombeaux, qu'ils les auraient donnés pour sauver leurs petits-fils. Ah ! Si les meilleurs de ces morts avaient été interrogés, si l'on avait pu savoir là-dessus l'avis d'un Vauban, d'un Colbert, d'un Catinat, d'un chancelier l'hôpital, de tous ces grands citoyens, si l'on eût consulté l'oracle de celle qui mérita un tombeau, non, un autel, la Pucelle d'Orléans, toute cette vieille France héroïque aurait répondu « N'hésitez pas, ouvrez, fouillez, prenez nos cercueils, ce n'est pas assez, nos ossements, tout ce qui reste de nous, portez-le, sans hésiter, au-devant de l'ennemi. » Un sentiment tout semblable fit vibrer la France en ce qu'elle eut de plus profond, quand un cercueil, en effet, la traversa, rapporté de la frontière, celui de l'immortel Beau Repère, qui, non pas par des paroles, mais d'un acte et d'un seul coup, lui dit ce qu'elle devait faire en sa grande circonstance. Beau Repère, ancien officier des carabiniers, avait formé, commandé depuis 89, l'intrépide bataillon des volontaires de Maine-et-Loire. Au moment de l'invasion, ses braves eurent peur de n'arriver pas assez vite. Ils ne s'amusèrent pas à parler en route. Traversèrent toute la France au pas de charge et se jetèrent dans Verdun. Ils avaient un pressentiment qu'au milieu des trahisons dont ils étaient environnés, ils devaient périr. Ils chargèrent un député patriote de faire leurs adieux à leur famille, de les consoler et de dire qu'ils étaient morts. Beau Repère venait de se marier, il quittait sa jeune femme et il n'en fut pas moins ferme. Le commandant de Verdun, assemblant un conseil de guerre pour être autorisé à rendre la place, Beau Repère résista à tous les arguments de la lâcheté, voyant enfin qu'il ne gagnait rien sur ces nobles officiers dont le cœur, tout royaliste, était déjà dans l'autre camp. « Messieurs, dit-il, j'ai juré de ne me rendre que mort. Survivez à votre honte. Je suis fidèle à mon serment. Voici mon dernier mot. Je meurs. » Il se fit sauter la cervelle. La France se reconnut, frémit d'admiration. Elle se mit la main sur le cœur et y sentit monter la foi. La patrie ne flotta plus au regard, incertaine et vague. On la vit réelle, vivante. On ne doute guère des dieux à qui l'on sacrifie ainsi. C'était avec un véritable sentiment religieux que des milliers d'hommes, à peine armés, mal équipés encore, demandaient à traverser l'Assemblée nationale. Leurs paroles, souvent emphatiques et déclamatoires, qui témoignent de leur impuissance pour exprimer ce qu'ils sentaient, n'en sont pas moins empreintes du sentiment très vif de foi qui remplissait leur cœur. Ce n'est pas dans les discours préparés de leurs orateurs qu'il faut chercher ces sentiments, mais dans les cris, les exclamations qui s'échappent de leur poitrine. « Nous venons comme à l'église », disait l'un. Et un autre, « Père de la patrie, nous voici, vous bénirez vos enfants ». Le sacrifice fut, dans ces jours, véritablement universel, immense et sans bornes. Plusieurs centaines de mille donnèrent leur corps et leur vie, d'autres leur fortune, tous leur cœur d'un même élan. Dans les colonnes interminables de ces dons infinis d'un peuple, relevons telle ligne au hasard. De pauvres femmes de la Halle apportent 4000 francs, le produit apparemment de quelques grossiers joyaux, leur anneau de mariage. Plusieurs femmes des départements, spécialement du Jura, avaient dit que, tous les hommes partant, elles pourraient monter la garde. C'est aussi ce qu'offrit, dans l'Assemblée nationale, une mercière de la rue Saint-Martin qui vint avec son enfant. La mère donne sa croix d'or, un cœur en or et son dé d'argent. L'enfant, une petite fille, donne ce qu'elle a, une petite timbale d'argent et une pièce de 15 sols. Ce dé, l'instrument du travail pour la pauvre veuve, la petite pièce qui fait toute la fortune de l'enfant. Ah, trésor ! Et comment la France, avec cela, n'aurait-elle pas vaincu ? Dieu te le rende au ciel, enfant. C'est avec ton dé de travail et ta petite pièce d'argent que la France va lever des armées, gagner des batailles, briser les rois à Gemap. Trésor sans fond, on puisera et il en restera toujours. Et plus il viendra d'ennemis, plus on trouvera encore. Il y en aura, au bout de 2 ans, pour solder nos 12 armées. Nul parti, il faut le dire, ne fut indigne de la France dans ce moment sacré. Disons mieux, s'il y avait de violents dissentiments sur la question intérieure, sur la question de la défense, il n'y eut point de parti. Le peuple fut admirable et nos chefs furent admirables. Remercions à la fois la Gironde, les Jacobins et Danton. Le salut de la France tint certainement à un acte très beau. D'accord, d'unanimité, de sacrifice mutuel, que firent à ce moment ses ennemis acharnés. Tous, ils s'accordèrent pour confier la défense nationale à un homme que la plupart d'entre eux haïssaient et détestaient. Les Girondins haïssaient Dumouriez, et non sans cause. Eux, ils l'avaient fait arriver au ministère. Lui, il les en avait chassés avec autant de duplicité que d'ingratitude. Ils l'allèrent chercher à l'armée du Nord, dans la petite position où il était tombé, et le nommèrent général en chef. Les Jacobins n'aimaient nullement Dumouriez. Ils voyaient bien son double jeu. Ils jugèrent néanmoins que cet homme voudrait, avant tout, la gloire, qu'il voudrait vaincre. Ce fut l'avis d'un jeune homme très influent parmi eux, Couthon, ami de Robespierre. Ils approuvèrent et soutinrent sa nomination au poste de général en chef. Danton fit plus. Il dirigea Dumouriez. Il lui envoya successivement sa pensée, Fabre d'Églantine, son bras, Westermann, l'un des combattants du 10 août. Il l'enveloppa, ce spirituel intrigant de l'Ancien Régime, du grand souffle révolutionnaire qui, autrement, lui eût manqué. Il y eut ainsi parfaite unanimité sur le choix de l'homme, et même unanimité pour concentrer toutes les forces dans sa main. On écarta ou l'on subordonna les officiers généraux qui pouvaient prétendre à une part du commandement. On envoya le vieux Luckner à Châlons former des recrues. On ordonna Dillon, plus élevé que Dumouriez dans la hiérarchie militaire, d'obéir à Dumouriez. Même ordre donné à Kellermann, qui gronda, mais obéit. Toutes les forces de la France et sa destinée furent remises à un officier peu connu et qui jusque-là n'avait jamais commandé en chef. C'est ainsi que le génie souverain de la Révolution élevait qui lui plaisait. Pourquoi devinait-il si bien les hommes? C'est qu'il les faisait lui-même. Cette fois, il fit un homme. Ce Dumouriez, qui avait traîné dans les grades inférieurs, dans une diplomatie qui touchait à l'espionnage, la Révolution le prend, l'adopte, elle l'élève au-dessus de lui-même et lui dit « Sois mon épée ». Cet homme, éminemment brave et spirituel, ne fut vraiment pas indigne de la circonstance. Il montra une activité, une intelligence extraordinaire. Ses mémoires en témoignent. Ce qu'on n'y voit point toutefois, c'est l'esprit de sacrifice, l'ardeur du dévouement qu'il trouva partout et rendit sa tâche aisée. C'est la forte résolution qui se trouva dans tous les cœurs de sauver la France à tout prix, en sacrifiant non la vie seulement, non la fortune seulement, mais l'orgueil, la vanité, ce qu'on appelle l'honneur. Un seul fait pour faire comprendre. Le vaillant colonel Leveneur, qui s'est rendu célèbre pour avoir pris, à lui seul, on peut le dire, la citadelle de Namur, avait eu le malheur de suivre Lafayette dans sa fuite. Il se repentit, revint. Il ne rentra dans l'armée que comme soldat, et sans murmure, il porta le sabre du simple hussard jusqu'à ce que de nouveaux services lui eussent fait rendre son épée. L'unité d'action était facile avec de tels hommes. Même les bandes indisciplinées de volontaires qui arrivaient de Paris, une fois encadrées, contenues, Dumouriez l'avoue lui-même, elles devenaient excellentes, surmontaient les fatigues, les privations, mieux que les anciens soldats. On voit bien dans ses mémoires tout ce qu'il fit pour l'armée. Mais pas assez comment cette armée fut soutenue. Il arrive à Dumouriez, comme à la plupart des militaires, de ne pas tenir assez compte des causes morales. Il fait abstraction du grand et terrible effet que produisit sur l'armée allemande l'unanimité de la France. Il n'a pas l'air de voir tous ces camps de gardes nationaux qui hérissaient les collines de la Meurthe, des Vosges, de tant d'autres départements. Il ne voit pas, du Rhin à la Marne, le paysan armé est debout sur son sillon. Mais l'ennemi l'a bien vu. Et voilà pourquoi il a si peu insisté, si peu combattu, si peu profité des fautes de Dumouriez. Voilà le secret de toute cette campagne. Il ne faut pas le chercher exclusivement dans les opérations militaires. Ici, parmi un désordre immense, mais tout extérieur, il y avait une profonde unité de passion et de volonté. Et du côté des Allemands, avec toutes les apparences de l'ordre et de la discipline, il y avait division, hésitation, incertitude absolue sur les moyens et le but. Pour juger le commencement de la guerre, il faut en voir déjà la fin. Il faut, pour mesurer la juste part d'estime que l'on doit à ces croisés qui lèvent ici la bannière contre la Révolution, il faut, dis-je, savoir à quel prix ils s'arrangeront avec elle dans quelques années d'ici. Après tant de phrases sonores sur le droit et la justice, les chevaliers s'avoueront pour ce qu'ils sont, des voleurs. La Prusse volera sur le Rhin et l'Autriche en Italie. L'une et l'autre, n'ayant pu rien gagner sur l'ennemi, gagneront sur leurs amis. Chose prodigieuse, on les verra tendre la main à la France et se faire donner par elle. Une ennemie victorieuse, donner leurs propres amis. Et dire à peu près ceci: « Je n'ai pu prendre ta vie, donne-moi la vie de mon frère. » Prusse, ainsi, dévorera les petits princes allemands et l'Autriche absorbera sa fidèle alliée, Venise. Tout cela se verra bientôt, mais sans attendre si loin, dans l'année même où nous sommes, en 92, comment voir sans horreur la scène qui se passait dans le Nord? Quant à moi, je ne demande pas d'humanité à l'ours blanc de Russie, pas davantage au vautour de l'Allemagne. Qu'elle soit mangée, cette Pologne, d'accord, je ne m'en étonnerai pas. Mais que ces bêtes sauvages aient pu prendre des faces d'hommes, des voix douces, des langues mielleuses, cela trouble, cela glace. Qu'avait besoin cette Prusse de s'engager, de promettre, de pousser la Pologne à la liberté? Quoi? Misérable pour que, jetée sous la dent de l'ours, elle te donna Thorn et Danzig. Et quelle chose effroyable aussi de voir la Russie elle-même attester la liberté, se plaindre de ce que la Pologne n'est pas assez libre. Puis, mêlant la dérision à l'exécrable hypocrisie, accuser tantôt sa victime d'être royaliste, tantôt d'être jacobine. Enfin, ces honnêtes gens vont dire en 93 que, dans leur sollicitude pour cette pauvre Pologne, et de peur qu'elle ne se fasse du mal à elle-même, ils croient de son intérêt qu'elle soit resserrée, encore plus, en certaines limites. C'est en France que la Prusse et l'Autriche devaient trouver leur expiation. Ils entrent en conquérant. Et ils s'en vont en voleurs, sans guerre sérieuse ni combat. Quelques volées de boulets et les huées de nos femmes, voilà ce qu'il en a coûté. Le fameux duc de Brunswick s'en va sans se retourner. Brunswick était déjà un homme d'âge. Il était lui-même prince souverain. C'était un homme prodigieusement instruit. D'autant plus hésitant, sceptique. Qui sait beaucoup, doute beaucoup. La seule chose à laquelle il rêvait, c'était le plaisir. Mais le plaisir, continué au-delà de l'âge, énerve non seulement le corps, mais la faculté de vouloir. Le duc était resté brave, savant, spirituel, plein d'idées et d'expériences. Il n'avait perdu qu'une chose, par quoi il était eunuque. Quelle chose? La volonté. Dans cette armée de rois, de princes, il y avait entre autres un prince souverain, le duc de Weimar, et avec lui, son ami, le prince de la pensée allemande, nous l'avons dit, le célèbre Goethe. Il était venu voir la guerre, et chemin faisant, au fond d'un fourgon, il écrivait les premiers fragments du Faust, qu'il publia au retour. Ce courtisan assidu de l'opinion, qu'il exprima fidèlement, ne la devança jamais, disait alors, à sa manière, la décomposition, le doute, le découragement de l'Allemagne. Il lui poétisait dans une œuvre sublime son vide moral, sa vaine agitation d'esprit. Elle en sortit glorieusement par des hommes de foi, par Schiller, par Fichte, surtout par Beethoven. Mais le temps n'était pas venu.
Du regard de l'académicien Jules Michelet, passons à un autre académicien, Arthur Schuquet. Arthur Maxime Schuquet, né en 1853 à Rocroi et mort en 1925 à Villemomble, est un critique et un historien français, spécialiste de l'Allemagne et de la période révolutionnaire. Fils d'un fonctionnaire de la douane établi à Metz, bachelier en 1870, il sert la même année dans la garde nationale à Metz. En 1871, il entre à l'école normale supérieure où il étudie l'histoire et la littérature. En 1874, il part faire un voyage d'études en Allemagne. Il suit les cours des universités de Leipzig et de Berlin. Agrégé d'allemand en 1876, Schuquet commence à exercer au lycée Saint-Louis de Paris. En 1886, il devient professeur de littérature allemande à l'École normale supérieure et en 1887, il passe sa thèse sur la campagne d'Argonne en 1792. Directeur de publication de la revue Critique d'histoire et de la littérature, collaborateur de grandes revues étrangères et titulaire de la chaire de langue et littérature d'origine germanique au Collège de France à partir de 1893, Arthur Schuquet est élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1900. De 1901 à 1921, il est professeur d'allemand à l'École supérieure de guerre à Paris. Dès 1886, il commence à écrire un nombre impressionnant d'ouvrages portant, pour la plupart, non seulement sur sa spécialité, la littérature germanique, mais sur l'histoire militaire de la Révolution et de l'Empire, dont il devient le spécialiste de sa génération. Les titres les plus importants sont sa série de 11 volumes sur les guerres de la Révolution et les 3 tomes de sa jeunesse de Napoléon. Il écrit également des études de campagne militaire particulière et des études biographiques de militaires de l'époque révolutionnaire comme, par exemple, Dumouriez, Charles de Hesse, Hoche, De Seix, Kléber, Marceau. La liste de ses ouvrages est longue et avec ses nombreuses publications, Arthur Schuquet fait partie des pionniers des études révolutionnaires et militaires. Son nom figure sur toutes les bibliographies, mais il est peu connu du grand public. C'est pourtant un personnage intéressant et un grand historien de la Révolution française, selon les critères en vigueur à son époque. Ses partis pris historiques sont favorables au mythe de l'honneur français maintenu par l'armée contre les excès révolutionnaires. Associé au groupe des républicains radicaux, admirateurs de la Révolution, il donne à sa plume une tonalité politique qui le démarque de la plupart des écrivains militaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, aux idées le plus souvent conservatrices. Les guerres de la Révolution sont publiées pendant les années 1887-1896. Dans le tome 2, intitulé Valmy, Arthur Schuquet nous conduit sur les collines de l'Argonne, non loin du moulin de Valmy. Voici donc la lecture d'extraits de son histoire.
Deux lignes de hauteur d'une glaise aride s'élèvent parallèlement l'une à l'autre en avant de Sainte-Menehould, à droite de la grande route qui mène à Châlons, non loin de Bionne. La première ligne servait de camp à l'armée de Dumouriez. La seconde est séparée de la première par une vallée assez étroite, couverte à cette époque de profonds marécages, et comprend deux hauteurs, le mont d'Yvron et le tertre de Valmy. Le mont d'Yvron s'étend entre la Bionne et la butte de Valmy. Le tertre de Valmy, séparé de l'Yvron par une prairie où coule durant 4 mois de l'année le petit ruisseau de Couperet, doit son nom au village qui se cache derrière lui dans le bas du vallon. Sa crête est étroite et escarpée. Elle était alors couronnée d'un moulin à vent qu'on voyait de très loin. Durant la journée du 20 septembre, l'Yvron devait être occupé par l'avant-garde de Dumouriez et le tertre de Valmy, ou comme on disait à cette époque, la butte du moulin, par le gros de l'armée de Kellermann. La grande route de Sainte-Menehould à Châlons laisse donc à droite l'Yvron et à une petite lieue le village de Valmy, à gauche Dampierre-sur-Auve et Gisaucourt. Elle passe par Dommartin-la-Planchette, Orbeval et la Lune, pour descendre de là, presque en ligne droite jusqu'à Châlons, à travers une grande et triste plaine dont le sol crayeux commence à se couvrir de sapinières. C'est la route que Louis XVI avait suivie 15 mois auparavant et suivie 2 fois, la première fois en plein silence, heureux et se livrant à l'espoir, la seconde fois... Abattu, désespéré, environné de gardes nationaux qui venaient en foule des villages du Clermontois, au son du tocsin, brandissant leurs fusils et leurs faux, criant non pas « Vive le roi !» mais « Vive la nation !» et « Vive les patriotes !» Orbeval était alors la première maison de poste avant Sainte-Menehould. C'est là que l'inquiétude avait saisi les fugitifs qui ne voyaient venir aucun des détachements promis par Monsieur de Bouillet. C'est à Sainte-Menehould que le maître de poste Drouet avait reconnu Louis XVI. C'est à la descente de Dommartin-la-Planchette, au bas de la Grèverie, que le comte de Dampierre, seigneur de Hans, avait été massacré sous les yeux de la famille royale, qui reprenait captive le chemin de Paris et peut-être le 22 juin 1791, en passant pour la seconde fois à Orbeval, Louis XVI vit-il à droite de la route le moulin de Valmy. Il ne se doutait guère que sa destinée se déciderait irrévocablement l'année suivante près de ce moulin et qu'au milieu des mornes plaines qu'il traversait, l'armée étrangère, désormais son unique espoir, viendrait s'épuiser dans l'inaction, la misère et la faim. La route, en partant d'Orbeval, s'élève par une longue rampe jusqu'à l'endroit où aboutissent 2 chemins de traverse, celui de Somme-Bionne et celui de Gisaucourt. Ce carrefour porte le nom de la Lune qu'il doit, dit-on, à sa forme circulaire. On aperçoit de là Orbeval, Dommartin-la-Planchette, le tertre de Valmy et la chaîne de l'Argonne qui dessine dans le lointain ses sommets boisés. Il y avait alors au bord de la route une maison isolée qu'on nommait l'auberge de la Lune. Ce lieu est très aride, sans plantation et sans ombrage, sans ruisseau, sans la moindre source. Il faut chercher l'eau jusqu'au village de Gisaucourt, de la Chapelle et de Saint-Marc, où passe la rivière d'Auve. Au nord-est s'étend une plaine immense, très fertile en froment, mais au sud-ouest le sol, formé d'un calcaire crayeux que recouvre à peine une légère couche de terre végétale, ne produit que des seigles et des marsages. Aussi, la limite de ce terroir stérile a-t-elle reçu le nom expressif de marche à famine. C'est sur ce plateau triste et désolé, le plateau de la Lune, que l'armée prussienne s'établit dans la journée du 20 septembre. C'est de là que son artillerie canonna le tertre de Valmy. C'est là qu'elle campa durant 10 jours, en proie au découragement et à la dysenterie, dans de boueux bivouacs.
Kellermann était arrivé le 18 septembre à Dampierre-le-Château, dans la vallée de Lièvre, à 4 lieues de Sainte-Menehould. Il avait avec lui 17 bataillons d'infanterie et 30 escadrons, en tout 16 000 hommes. Il se hâta, sur le conseil de Dumouriez, d'envoyer au camp de Braux quelques détachements dont l'arrivée remplit les soldats de confiance et de joie. L'armée des Ardennes était certaine désormais que l'armée du centre venait à son secours et combattrait avec elle. Telle était la position des Français le 19 septembre au soir. L'armée des Ardennes campait à Braux-Sainte-Coyère et l'armée du centre à Dommartin-la-Planchette, toutes deux à droite de la Grande Route. Kellermann avait laissé son quartier général à Dampierre-sur-Auve et fait occuper Gisaucourt par le 1er régiment de dragons. Son avant-garde, sous les ordres de Depré-Crassier, s'était portée vers le village de Hans, sur la Bionne, au pied du mont de Livron. Celle de Dumouriez, commandée par Stengel, avait reculé devant les hussards prussiens et s'était établie à la fois sur Livron et sur le tertre de Valmy. L'avant-garde prussienne avait passé la nuit du 19 au 20 septembre à Somme-Billonne. Elle se mit en marche le lendemain, entre 6 et 7 heures du matin, en deux colonnes. Le duc de Brunswick était venu lui-même donner ses instructions au prince de Hohenlohe. Comme la veille, on n'avait qu'un seul but, rejoindre la route de Châlons en tenant toujours la crête des hauteurs. Une pluie fine et froide tombait depuis la pointe du jour et un brouillard épais enveloppait la contrée d'un voile impénétrable. Hohenlohe et son chef d'état-major Mazenbar déployèrent la carte de Cassini et ordonnèrent aux paysans qui leur servaient de guide de les mener droit à Meigneux. C'était une ferme située sur l'emplacement d'un village détruit par les Anglais au temps de Charles VII. Elle est à 800 mètres de la Grande Route et à 1500 mètres de la Maison de la Lune. L'avant-garde avait fait à peine quelques centaines de pas et Mazenbar, qui l'a précédé, causait avec le lieutenant de hussards Zavaski lorsque retentirent des coups de canon, les premiers de la journée. Les artilleurs de Depré-Crassier, postés en avant du mont d'Ivron entre Hans et Valmy, ouvraient le feu sur la ligne sombre qu'ils voyaient se mouvoir au loin à travers la brume. Mais Hohenlohe ne riposte pas. Il poursuit sa marche vers Meigneux et s'arrête à quelque distance de la ferme. Il porte sa cavalerie à droite du chemin de traverse qui mène à la Grande Route. Il place à gauche, près d'un bouquet de buissons, les bataillons de fusiliers, renoirs et muflings. Et derrière eux, toute son infanterie. Il établit en avant des fusiliers la batterie volante de Schönenmark qu'il charge de canonner l'avant-garde ennemie dans la direction du mont d'Ivron. Mais une vapeur de plus en plus dense, couvrant la plaine, dérobe aux Prussiens la vue de l'adversaire et la batterie française n'apparaît qu'à de rares intervalles lorsque le vent fait ça et là une trouée dans le brouillard. Tout à coup, pendant que les boulets qui partent de Livron tombent au hasard sur la gauche de l'avant-garde prussienne, une grêle de projectiles s'abat sur la droite. Une autre batterie française vient de s'installer sur la route de Châlons, à l'embranchement du chemin de traverse et de la chaussée nationale, près de l'auberge de la Lune. Au milieu du nuage grisâtre qui s'étend sur le plateau, les Prussiens voient s'agiter de gros points noirs et surgir par instant le toit d'une maison. C'était la réserve de l'armée du centre. Pris au dépourvu, forcé de changer de terrain et d'improviser tant bien que mal son ordre de bataille, désireux de gagner quelques heures, Kellermann envoyait sa réserve sur la hauteur de la Lune et la chargeait de soutenir son avant-garde et de couvrir par une vigoureuse diversion les mouvements de son armée qui occuperait, pendant ce temps, ses positions de combat. Valence était à la tête de cette réserve composée de 2 régiments de carabiniers, de quelques escadrons de dragons et de 4 bataillons de grenadiers. Il déploie ses troupes sur une seule ligne en avant de la Grande Route. Il place près de l'auberge de la Lune 2 compagnies d'artillerie à cheval. Sans ce mouvement de Valence, la journée se terminait peut-être par la défaite des Français. Aussi Kellermann louait-il le lendemain la valeur, le sang-froid et les talents militaires de son lieutenant. Monsieur de Valence a contenu longtemps les ennemis sur une hauteur en avant de celle où je formais mes troupes. La canonnade engagée par l'artillerie de Valence fut extrêmement violente. Elle força l'avant-garde de Hohenlohe à suspendre sa marche et fit reculer un des meilleurs corps de la cavalerie prussienne. Pendant que le prince de Hohenlohe postait son avant-garde près de Meigneux, la brigade que commandait le duc Charles-Auguste de Weimar précédait le gros de l'armée et s'avançait au grand trot. Elle se composait de 15 escadrons et menait avec elle la batterie volante du capitaine Meyer. Le duc courait droit à la route de Châlons. Emporté sans doute par son ardeur et oubliant les ordres de Brunswick, il franchit la chaussée. C'était, dit Goethe, qui chevauchait au premier rang, une allée de beaux et grands peupliers. Mais tandis que les escadrons de Weimar, d'Eben et de Norman galopent ainsi dans la brume et, selon le mot du poète, dans le gris et l'inconnu, l'artillerie de Valence tire sur eux à toute volée. Surprise, déconcertée, ne voyant pas au milieu du brouillard la hauteur de la lune d'où part cette décharge inattendue, la cavalerie prussienne prend la fuite et regagne la route en toute hâte. Les manteaux blancs suivaient une direction parallèle à la croupe de leurs chevaux, a écrit Goethe. Le commencement de la journée n'était pas de bon augure. On allait soutenir à Vaucaraman une lutte sérieuse et l'action militaire devenait la seule possible. Hohenlohe, alarmé par la déroute des escadrons de Weimar et craignant une attaque de la cavalerie française, fait avancer les hussards de Wolfrat et les place à l'extrémité de son aile droite. Mais il importe surtout de réduire au silence le canon de Deprécrassier et de Valence. Sur l'ordre du prince, les batteries de Decker et de Berneck se portent en avant de l'infanterie et ouvrent le feu vers Livron, pendant que les batteries volantes de Schönenmark, de Husser et de Meyer dirigent tous leurs efforts contre la lune qu'elles prennent en flanc. Mais l'artillerie française répond vigoureusement à l'artillerie prussienne. La canonnade, dit le chef d'état-major de Hohenlohe, dure longtemps et sans intermission avec la plus grande activité. Enfin, vers 8h30, la batterie établie en avant de Livron ne riposte plus et celle de la Lune, vaincue par les feux croisés de trois batteries, abandonne la hauteur. Pendant que l'avant-garde de Deprécrassier se retire sur le camp de Don Martin la Planchette, toute la réserve que commande Valence, grenadiers, dragons, carabiniers, canonniers, se replie sur le gros de l'armée et descend dans la plaine entre Orbeval et Lauve. Mais la résistance de cette réserve a été, selon le mot de Mazenbar, opiniâtre. Les grenadiers n'ont pas fléchi. Les carabiniers, reconnaît Nassau-Siegen, ont essuyé un feu très vif sans éprouver le moindre désordre. L'un d'eux, un officier, égaré dans le brouillard et fait prisonnier, fut amené au roi de Prusse. Et l'état-major admira sa haute taille et sa figure martiale ombragée du bonnet à poils. La marche de l'avant-garde prussienne sur la ferme de Meigneux, la canonnade qu'elle engage contre l'artillerie française postée en avant de Livron et à la maison de la Lune, le mouvement de Valence et la belle contenance des troupes qui fait présager celle de l'armée entière, tels sont les premiers événements de la journée du 20 septembre. Quelques coups de canon isolés s'échangent encore de part et d'autre. Mais en réalité, la lutte est interrompue. Pendant que Hohenlohe attend l'arrivée de l'armée prussienne qui suit avec une extrême lenteur le mouvement de son avant-garde, Kellermann range et dispose ses troupes. Les deux adversaires semblent profiter du brouillard qui dure encore pour se préparer. L'un à l'attaque, l'autre à la défense. Il était 7h du matin lorsque Kellermann connut l'approche des Prussiens. Il n'avait pas prévu cette arrivée subite de l'ennemi. « J'étais bien loin de croire, dit-il dans son rapport, qu'une aussi grande partie de l'armée alliée eût passé par la trouée de Grandpré. Ils comptaient réparer dans la matinée la faute de la veille et prendre une meilleure position, celle qu'ils prirent après la bataille, à Dampierre-sur-Auve et à Voilemont. L'apparition soudaine des ennemis rompait ses desseins. Ils n'avaient plus le temps de passer l'Auve. C'était exposer l'armée au plus affreux désordre, l'engager au milieu des marais, la livrer à l'adversaire qui la foudroierait sans péril du haut des monticules voisins. Il valait mieux se porter hardiment en avant de l'Auve à la rencontre des assaillants. Bientôt, tout est en rumeur dans le camp de Don Martin la Planchette. On prend les armes, on sonne le bout de selle, on plie les tentes. Les équipages partent au grand trot par la chaussée de Sainte-Ménéhoulde et se retirent à une lieue en arrière de l'aile gauche de Dumouriez. Mais il y eut durant plusieurs heures de grands encombrements d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie. Rien n'avait été prévu, raconte le général Pully. Les ordres furent envoyés au hasard et l'armée se rassembla sans qu'on eût examiné ni reconnu la position. Heureusement, le gros de l'armée prussienne ne se mit en marche que très tard et n'avança que fort lentement. Heureusement, de Précrassier avec son avant-garde et surtout Valence avec sa réserve empêchèrent Hohenlohe de gagner du terrain. Pendant ce temps, Kellermann cherchait, selon son expression, son champ de bataille. Il se souvenait de la recommandation de Dumouriez d'occuper en cas d'attaque le tertre de Valmy, et peut-être Stengel, qui se trouvait en personne sur cette hauteur, lui fit-il dire que l'armée du centre, attaquée à l'improviste, ne pouvait occuper une meilleure position. Il ordonne donc à sa seconde ligne, commandée par Muratel, de remonter la plaine et de s'établir à la butte du moulin, sous la protection de 18 pièces d'artillerie. Le duc de Chartres prend les devants et dirige le mouvement d'infanterie. Il atteint le moulin vers 8 heures. Stengel l'attendait avec impatience. « Arrivez donc !» lui crie de loin l'impétueux général. « Je ne puis quitter ce poste sans être relevé, et pourtant, si je ne devance pas les Prussiens là-dessus, » et en disant ces mots, il montrait la côte d'Yvron, « nous serons écrasés, ici, tout à l'heure !» Et sans perdre un instant, laissant son infanterie le suivre comme elle peut, il part au grand galop avec ses escadrons et les deux compagnies d'artillerie volante attachées à l'armée des Ardennes, celle des capitaines Barrois et Annick. Il traverse rapidement le village de Valmy et le vallon où coule le couperet et s'installe sur le mont d'Yvron pour y demeurer toute la journée. La droite de Kellermann a été couverte par l'avant-garde de Stengel. Mais il fallait pourvoir à la sûreté de sa gauche. Déjà, à la pointe du jour, des hussards de Köhler galopant avec audace au milieu du brouillard avaient traversé sur la grande route et poussé jusque derrière le quartier général de Kellermann, au village de Gisaucourt, où campait en sécurité le 4e régiment de dragons commandé par le colonel Tolossan. Ces dragons n'avaient eu que le temps de monter à cheval et de sortir du village en abandonnant leurs équipages aux hussards prussiens qui s'étaient retirés aussitôt. Sur l'ordre de Kellermann, quelques escadrons de chasseurs à cheval et deux bataillons d'infanterie allèrent, au-delà du grand chemin, se poster sur les bords de l'Auve et de l'Yèvre, soit à la ferme de Maupertuis, soit dans le village et château de Gisaucourt. Sa première ligne restait en bataille au camp de Dommartin-la-Planchette. Kellermann ne connaissait pas encore le dessein et les forces de l'ennemi. Avait-il devant lui l'armée entière de Brunswick ? Les Prussiens allaient-ils l'attaquer avec toute leur force ou n'opérer contre lui qu'une simple démonstration et assaillir Dumouriez en tournant Gisaucourt ? Enfin, lorsqu'il eut la certitude que l'ennemi n'en voulait qu'à son armée, il fit avancer sa première ligne et la rangea en arrière de la seconde sur la crête du tertre de Valmy, en appuyant sa droite au moulin et en plaçant au centre 18 pièces d'artillerie. L'armée française, faisant face aux envahisseurs, s'étend donc en une sorte de demi-cercle, de Livron à Gisaucourt. À droite, sur Livron, est Stengel, le meilleur des lieutenants de Dumouriez. Au centre, le gros de l'armée de Kellermann se trouve ramassé en deux lignes sur le sommet et les pentes de la butte de Valmy, que défendent 36 pièces de canon. À gauche, l'avant-garde de Deprécrassier et la réserve de Valence, formant l'équerre, occupent la plaine qui s'étend entre le monticule de Valmy et la maison de poste d'Orbeval, et un fort détachement garni Maupertuis et Gisaucourt au-delà de la Grand Route. Kellermann aurait dû poster toute sa cavalerie dans la plaine, où elle aurait soutenu la réserve de Valence et protégé le camp de Dommartin-la-Planchette. Mais il ne semblait pas avoir d'autre idée que d'entasser pêle-mêle sur la hauteur de Valmy toutes les troupes qu'il avait sous la main. Il fit placer, dit le général Pully, la cavalerie sur la hauteur en arrière du moulin, à 10 pas de l'infanterie, et ayant derrière elle une seconde ligne de dragons, de chasseurs et de hussards qui se trouvèrent là sans ordre et je ne sais comment. Et comme hors d'œuvre, il est bon d'observer que le plateau qu'occupait l'armée amoncelée n'avait ni largeur ni profondeur. Il était entre deux gorges, de sorte qu'il était impossible à l'infanterie et à la cavalerie de se mouvoir et de changer sa position. Mais de Sainte-Ménéhould, où il semblait inactif, Dumouriez secourait son collègue avec autant d'habileté que de promptitude. Lui aussi avait été surpris par l'attaque de l'ennemi. Il connaissait le mouvement commencé l'avant-veille par Hohenlohe contre Vienne-le-Château, et croyant Duval en danger, il s'était empressé dès le 18 septembre d'envoyer à son lieutenant 5 bataillons de renfort.
Vous venez d'écouter les académiciens Jules Michelet et Arthur Chuquet La seconde émission vous permettra d'écouter de nouveau des textes d'Arthur Chouquet qui poursuit sa présentation de cette journée mémorable. Puis enfin, les textes de Victor Duruy vous présenteront la fin et le dénouement de cette bataille.